Alors, je prends la parole juste pour quelques mots pour cette conférence inaugurale du premier cycle de conférences organisées par la BULAC en collaboration avec l'INELCO pour cette première série. Je voulais donc vous donner juste deux, trois éléments pour vous expliquer pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui, pourquoi sur ce sujet, pourquoi même tout court des conférences. Vous avez reçu l'information les uns les autres. Alors, je connais beaucoup de têtes, mais pas tout à fait toutes. Donc, certains sont arrivés parce que l'information est parvenue jusqu'à eux par un canal que j'ignore peut-être, mais je m'en réjouis de toute façon, puisque ces conférences sont ouvertes à tous, même si au départ, nous les avons conçues comme une action de formation continue à destination principalement des bibliothécaires appartenant au projet BULAC. Quand on a commencé à travailler sur la liste des conférences, on s'est dit que c'était vraiment trop dommage de fermer, on va dire, la salle et les portes, alors que sur des sujets aussi intéressants, généraux, d'actualité, passionnants, il pouvait y avoir des tas d'autres personnes intéressées pour les suivre. Donc nous avons un peu fait évoluer le concept naissant, hein, puisque là il s'agit vraiment de ça. C'est une première conférence qui était une action de formation continue, qui est peut-être la première conférence publique organisée par la BULAC et peut-être la première d'une série de 10, 20, 30, 40 années, je ne sais pas. Vous ne savez pas encore à quoi vous participez, en fait, et moi non plus. Tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de rodage. Je suis ravie de voir qu'il y a autant de monde dans la salle parce que c'était aussi l'inconnu, hein, un lundi matin, avec une publicité quand même assez minime, on va dire. Donc je suis très heureuse de vous accueillir là, très heureuse que Éric Meyer, qui est donc le président du conseil scientifique de la BULAC depuis maintenant le mois de décembre 2007, nous ait fait l'honneur de bien vouloir inaugurer ce cycle, qui se conclura d'ailleurs par une conférence de M. Legrand au mois de décembre, qui portera sur la Mongolie, et entre les deux, six autres conférences dont vous avez pu voir le programme, soit vous l'avez reçu, soit vous le trouvez à la sortie dans le vestibule. Je ne vais pas vous le lire, hein, puisqu'il est disponible. Oui, il y aura peut-être une difficulté sur la conférence du 21 avril, il y a un problème de date et de disponibilité, mais on vous confirmera tout ça d'une façon ou d'une autre par différents canaux, par messagerie bien sûr pour ceux qui sont destinataires de l'info à l'intérieur de la BULAC, mais également sur le site internet de la BULAC pour tous les autres. Je veux juste encore faire quelques mots de remerciement, d'une part à destination donc du service de formation continue de l'INALCO, ici représenté par Mme Tiraspolsky, qui nous a aidés pour ce premier cycle, donc pour l'année 2008, à mettre au point ce programme de conférences, en s'appuyant sur les ressources des enseignants, chercheurs connus du service. C'est bien grâce à eux qu'on a réussi à mettre au point pour une première dans d'aussi bonnes conditions le programme des conférences. Nous continuerons l'année prochaine, nous continuerons peut-être avec le service de formation continue d'INALCO, peut-être avec d'autres et peut-être avec plusieurs en même temps, puisque nous avons bien sûr l'ambition de développer ce concept de conférence s'il fonctionne et si nous trouvons notre public. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci à Mme Mathieu qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a été l'interlocuteur d'Isabelle Poupard. J'en profite pour remercier Isabelle Poupard, qui au sein de l'équipe BULAC est la cheville ouvrière de toute cette organisation, et sans elle, rien n'aurait abouti non plus. Et enfin, je remercie aussi très chaleureusement l'Université Paris-Descartes, comme on l'appelle maintenant, qui nous accueille dans ses murs tout de même prestigieux, quoique patinés. Je veux vous signaler aussi que c'est grâce au service de l'Université Paris-Descartes que cette conférence va être enregistrée et qu'elle sera la première pierre, je dirais, de la bibliothèque numérique de la BULAC pour son patrimoine oral. Je remercie M. Meyer qui accepte d'être enregistré et qui signera à l'issue de la conférence le papier qui nous autorisera à diffuser cette conférence. Et je lui laisse la parole maintenant. Merci beaucoup.
Merci. Écoutez, Isabelle Poupard m'a vivement recommandé de ne pas vous infliger un exposé ennuyeux. je vais essayer de me conformer à son conseil, mais je ne vous garantis pas du tout le résultat. Moi, j'ai l'habitude, en fait, de faire des cours de ce genre-là ou des présentations de ce type, soit à des étudiants de première année de l'INALCO, soit à des étudiants qui sont en formation continue. Donc, votre public est un public extrêmement cultivé. Je ne le connais pas tellement, sauf pour l'avoir fréquenté en tant qu'usager de bibliothèque. Donc, je ne sais pas encore très bien à quel niveau je vais pouvoir me situer. Vous savez comme moi qu'à Tolbiac, la Bulac sera couplée à l'INALCO. Et je voudrais vous parler, pour commencer, des deux sigles, ou plutôt des deux acronymes. L'un, la Bulac, a encore la fraîcheur de la jeunesse. L'autre, l'INALCO, porte les rides d'un passé tumultueux, au cours duquel l'institution qu'il représente a changé plusieurs fois de nom. Le précédent, EnLove, ne s'étant jamais imposé, en dépit de sa sonorité juvénile et passionnelle, en tout cas pour des oreilles anglo-saxonnes. Le sobriquet Langzo a conservé sa saveur au cours des siècles, en fait, ainsi que sa capacité à provoquer un certain nombre de jeux de mots. Vous connaissez probablement le plus impertinent, qui consiste à dire que ce zoo des langues avait pour fonction de faire se reproduire en captivité des langues capturées dans la brousse. En dehors de l'âge, il y a un autre trait qui différencie l'INALCO et la Bulac. La présence insistante de la lettre O dans le premier acronyme et son absence délibérée dans le second. Et je dis bien délibéré, lorsque le comité de pilotage était chargé de trouver un nom à cette nouvelle institution a discuté de la question, nous avons écarté d'emblée la lettre O, et ceci sans état d'âme. L'adjectif oriental posait un certain nombre de problèmes, et les raisons qui nous ont fait l'écarter étaient, je pense, de très bonnes raisons. Bon, la première raison, c'est qu'une institution qui s'occupe aussi bien des langues de l'Afrique subsaharienne que des langues de Sibérie, de l'Inuktitut que du Quechua, ne peut pas se qualifier d'orientale, sinon au prix de contorsions assez grotesques. Mais ensuite, parce que dans le monde du XXIe siècle, l'Europe n'occupe plus la place centrale qu'elle prétendait avoir au cours des deux siècles précédents. Si on fait tourner le globe terrestre, naturellement, on verra que l'Orient des Européens du XVIIIe siècle et l'Occident de la Chine et du Japon, que l'Europe et l'Orient de l'Amérique, etc. Disons qu'on est toujours l'oriental de quelqu'un. Pourtant, le terme « Orient » est si fortement ancré dans le vocabulaire, au moins anglo-français, qu'il en a presque perdu son sens, ou en tout cas son sens de point cardinal, pour en venir à désigner l'autre de l'Europe, et qu'il a largement servi, en fait, aux Européens à se définir, à se construire une identité, celle d'occidentaux, par contraste. Les Européens ont donc eu tendance à produire des images de l'Orient en forçant le trait, en accentuant les différences, pour en souligner l'altérité et l'exotisme. Comme le suggère le sous-titre du célèbre ouvrage d'Edward Said, consacré à l'orientalisme, ce livre, l'Orient est en un sens la création de l'Occident. Je ne referai pas ici l'histoire de ce concept d'Orient, son émergence à la Renaissance, sa mode à la période romantique, sa persistance jusqu'au milieu du XXe siècle. À côté du livre, par ailleurs très controversé, d'Edward Said, il y a de fort bons ouvrages, nettement plus anciens, comme La Renaissance orientale de Raymond Schwab, paru dès 1950. Je me contenterai de vous faire remarquer que l'usage du terme oriental sous forme de substantif ou d'adjectif est porteur d'une image qui est toujours une image qui a une charge affective. Ce n'est jamais neutre. Comparez par exemple l'expression très prosaïque « pays de l'Est » à l'expression « pays oriental » et vous verrez la différence. En revanche, il est indispensable de situer le succès de ce concept d'Orient dans une histoire, et cette histoire, c'est celle de l'affirmation, puis de la crise de l'hégémonie mondiale de l'Europe. Ce qui n'était au départ que l'affirmation d'une altérité se transforme vite en affirmation d'une domination. Le mot « oriental » prend au XIXe siècle, dans le vocabulaire colonial, une connotation péjorative, devient synonyme de défectueux, d'inférieur, de mal gouverné. Prenez par exemple l'expression bien connue, le despotisme oriental. Et ce mot sert à justifier la mainmise impériale occidentale sur le monde oriental. Bon, même si ce genre d'argumentaire a perdu aujourd'hui de sa pertinence, il reste en fait sous-jacent dans les représentations conscientes ou inconscientes qu'ont les occidentaux des orientaux. La dissymétrie est encore plus claire si on s'intéresse à ceux qui font profession de produire, de conserver, de diffuser le savoir, vous et moi en quelque sorte. Il existe depuis plus de deux siècles une branche du savoir qu'on qualifie d'orientalisme en Occident. Sauf exception, il n'existe pas une branche du savoir qu'on qualifie d'occidentalisme en Orient. Les savants européens attribuaient cette dissymétrie à la supériorité de leur science et à l'absence de curiosité en Orient pour les choses d'Europe, ce dont il est permis de douter en fait. Il est plus probable que c'est l'existence d'une demande de connaissances liée à l'expansion européenne qui a suscité une offre, ce qui ne veut pas dire que l'orientalisme d'appropriation, que soit intrinsèquement une forme de colonialisme ou d'appropriation de l'autre par appropriation du savoir sur l'autre, comme le suggère Edward Said. Il y a eu des orientalistes non coloniaux. Je pense par exemple à Antille Duperron, que certains d'entre vous connaissent certainement, et que ceux qui ne le connaissent pas devraient apprendre à connaître, car c'est probablement l'un des personnages, des aventuriers intellectuels du XVIIIe siècle, les plus extraordinaires qui soient. Mais l'orientalisme comme discipline constituée obéit à une chronologie qui est quand même parallèle à celle de l'impérialisme européen. On le verra tout à l'heure pour le cas de l'Inde, qui va nous occuper beaucoup plus, à l'aide en particulier du livre tout récent qui a été publié par Roland Lardinois qui s'appelle « L'invention de l'Inde » aux éditions du CNRS qui est paru il y a quelques mois. Bon, mais avant d'en venir à l'Inde qui est l'objet principal de cet exposé, ou plutôt aux Indes, encore un mot pour l'Orient, ou plutôt pour les Orients. Car les Européens ont introduit très tôt des degrés, des gradations, qui ne sont pas seulement géographiques, dans cette notion d'Orient, en distinguant le proche, le moyen et l'extrême-Orient. Ces distinctions sont particulièrement floues et impressionnistes. Vous savez qu'on ne peut absolument pas tracer de limites, mais ces distinctions se sont pourtant maintenues dans le vocabulaire courant, ce qui signifie qu'elles avaient quelques raisons d'être. La principale raison, je pense, était de maintenir la séparation entre Orient et Occident, envers et contre tout, en repoussant toute idée d'un continuum entre l'Europe et l'Asie, pour faire simple. Donc on a inventé un Proche-Orient, recouvrant l'appellation ancienne de Levant, qui correspondait grosso modo aux zones de l'ancien Empire ottoman. Mais dont on ne sait plus très bien s'il commence à Ljubljana ou à Istanbul, s'il s'arrête à Damas ou à Bagdad. Et on lui a accroché un Moyen-Orient, qui finit par l'englober plus ou moins, et par s'identifier aux pays musulmans d'Asie occidentale, en se gonflant à l'ouest et à l'est, pour inclure, le cas échéant, l'Afghanistan, voire le Pakistan. Et enfin, après un hiatus quand même très important, qui est celui de l'Inde, dont je vais vous parler, l'Inde qu'on ne sait pas très bien où placer dans ces Orients, On a inventé un Extrême-Orient, dont on situe le point de gravité quelque part entre la Chine, la Corée, le Japon et le Vietnam, selon le cas, et que l'on pousse, le cas échéant, jusqu'à l'Inde. Prenez par exemple l'acception du mot Extrême-Orient dans l'école française Extrême-Orient, dont le champ d'activité va de Pondichéry jusqu'à Tokyo. Vous avez là une acception extrêmement large, qui correspond à un phénomène historique, en fait. Donc ces catégories extrêmement floues fluctuent avec les intérêts des Européens. Il y a de quoi vraiment être déboussolé si on veut s'accrocher à ces points cardinaux et on est finalement bien désorienté. Est-ce qu'on va être dans un terrain plus sûr pour parler de l'Inde ou des Indes? Eh bien pas vraiment. Le terme est presque aussi vague et aussi polysémique que celui d'Orient Il est d'ailleurs parfaitement orientaliste, si on peut dire. C'est quand même un étonnant destin que celui de ce nom, qui à l'origine désigne un fleuve, l'Indus, puis par extension sept rivières, Sapta Sindhu, dans les textes qu'on qualifie de védiques, et qui par métonymie vient à désigner le pays au-delà de ces sept rivières. C'est un exonyme orientaliste, puisqu'en fait c'est une appellation qui a été donnée par les gens de l'Ouest, les Occidentaux de l'Inde, c'est-à-dire les Perses, à ce pays d'au-delà de la rivière. Les habitants eux-mêmes, employant d'autres termes, le terme de Jambudvipa, le continent des jambousiers, ou bien le terme de Bharatvarta, la terre des Bharats, etc., etc. Mais le plus extraordinaire est que la mutation de sens concernant le mot Inde devient véritablement singulière au XVe et au XVIe siècle, quand l'Inde, cette terre de désir, selon l'expression du philosophe Hegel, attire commerçants, missionnaires, aventuriers avides de gains, et lorsque cette passion conduit Christophe Colomb à chercher à atteindre l'Orient par l'Occident, l'Inde par l'Ouest, et à baptiser indiens les habitants du nouveau continent qu'il vient d'atteindre. Ce qui est en fait le plus étonnant, ce n'est pas sa méprise ou cette soi-disant méprise, mais plutôt le fait que le mot ait été conservé dans le vocabulaire aussi longtemps, non seulement pour les Indiens, mais aussi dans l'expression « Inde occidentale », qui n'est pas d'usage courant français, mais qui l'est encore en anglais, et qui désigne toujours les pays des Caraïbes. Et l'extension de sens du mot « Inde » s'est également produite vers l'Est, puisque avec la création des termes Indonésie ou Insulinde, Indochine, l'usage du terme Inde au pluriel par les compagnies des Indes orientales, eh bien le mot Inde en est venu à désigner en fait tous les pays exposés à la domination du commerce européen, bientôt organisés dans le cadre de compagnies à monopole, et qui vont finalement avoir un rôle fondamental dans cette fameuse mainmise sur l'Orient dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au cours des siècles suivants, XVIIe et XVIIIe siècles, le vocable Inde se charge encore plus de sens. L'Inde devient dans l'imaginaire européen la quintessence de l'Orient, la terre des désirs de Hegel que j'ai évoqué tout à l'heure, des désirs qui se payent cher et qui vont conduire la compagnie britannique à mettre la main sur le continent pour réduire son déficit. L'Inde va devenir plus que cela. L'Inde devient, dans l'imaginaire européen, une sorte de contrepoids au Proche-Orient, de moyen de contournement du monde islamisé, ce que les Portugais d'ailleurs cherchaient déjà à faire lorsqu'ils ont fait le tour de l'Afrique pour atteindre l'Inde. Et dans l'âge de la philologie triomphante à la fin du XVIIIe siècle, l'étude de l'Inde devient la discipline qui permet aux érudits, notamment aux érudits germaniques, de construire un système de savoir qui va leur permettre, le croit-il du moins, de trouver des origines à l'humanité différentes de celles qu'on lui attribuait traditionnellement, les origines bibliques. L'Inde est donc un instrument qui va, dans l'imaginaire européen, servir en quelque sorte d'élément qui permet une sorte d'identité universelle, qui permet aux Européens de se sentir les cousins de quelqu'un en Asie, et qui est donc à l'origine de cette fameuse théorie indo-européenne que vous connaissez. À l'origine, bien sûr, il n'y a pas du tout les connotations que cette notion va prendre à la fin du XIXe et au cours du XXe siècle. À l'origine, il y a un constat, qui est un constat de philologue, qui est l'œuvre de William Jones, de Bopp et d'un certain nombre de grands savants. Mais, très curieusement, c'est l'Inde qui est choisi comme le point de référence et pas l'Iran, qui pourrait l'être aussi bien. On ne parle pas de civilisation irano-européenne, on parle de civilisation indo-européenne à l'époque. Et je pense qu'il y a des bonnes raisons pour cela. Maintenant, fin 18e, début 19e siècle, se produit aussi dans l'Europe de la fin des Lumières un autre phénomène culturel de grande ampleur, qui est l'émergence du romantisme. Et l'Inde va également servir à ce nouveau discours, à cette nouvelle passion. En fait, l'Inde devient l'objet d'une véritable passion amoureuse pour les romantiques européens, et notamment allemands, qui vont trouver dans l'Inde l'exemple même, non seulement d'une civilisation parente, mais de toutes les vertus que l'Europe a abandonnées progressivement. Et donc l'Inde devient la terre par excellence du romantisme, on va y chercher l'origine de toute chose, et aussi bien de la philosophie, du théâtre, de la spiritualité. Et donc ce phénomène va se poursuivre pendant plusieurs siècles et va marquer durablement l'image de l'Inde jusqu'à nos jours. Alors parallèlement à cette passion pour l'Inde, se met en place un savoir sur l'Inde, un savoir à prétention scientifique, et on commence à parler d'indologie ou d'indianisme, et l'indologie et l'indianisme se situent à l'époque au cœur de l'orientalisme. Il suffit de faire la liste, aussi bien en Grande-Bretagne qu'en France, de toutes ces institutions qui naissent entre la fin du XVIIIe et la fin du XIXe siècle, pour voir quelle est la place de l'Inde dans ce processus d'appropriation du savoir sur l'Asie. Cela commence avec la Société asiatique du Bengale, fondée dans les années 1780 par William Jones à Calcutta. C'est la toute première société orientaliste du monde. Cela continue avec la Société asiatique qui a été fondée en France en 1822. Avant, il y a eu la fondation des Langues Zhou en 1795, la création de la chaire de sanskrit au Collège de France en 1814, les débuts d'enseignement de Garcin Tassi à Langzhou en 1828. Bref, il y a toute une chronologie qui est très resserrée et qui correspond au premier tiers du XIXe siècle, période à laquelle, de l'avis des jeunes chercheurs allemands qui se précipitent à Paris, Paris est le lieu où il faut venir si on veut apprendre quelque chose sur l'Inde. Bon, je pense que ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, loin de là, mais au début du XIXe siècle, il y a cette présence extraordinaire de l'Inde dans le paysage parisien. Aux objectifs pratiques, qui sont ceux de la France révolutionnaire et impériale, lorsqu'elle crée les Langues Zhou, objectifs pratiques qui se traduisent d'ailleurs par la fameuse expédition d'Égypte, qui ne touche l'Égypte qu'avec l'idée que peut-être un jour on atteindra l'Inde, s'ajoutent d'autres préoccupations qui sont des préoccupations purement scientifiques. Mais il y a aussi la création en France, comme en Allemagne et en Angleterre, d'un véritable milieu social. Et ce milieu social d'indianistes, qu'ils soient des indianistes de profession ou qu'ils soient des amateurs éclairés, joue un rôle très important dans le paysage intellectuel de la France de la première moitié du XIXe. Vous trouverez par exemple dans le livre de Roland Ardinois que je vous ai cité tout à l'heure une description extrêmement intéressante de ces milieux. Vous trouvez également dans d'autres ouvrages, je vous ai parlé de la Renaissance orientale de Raymond Schwab, il y a aussi le petit livre extrêmement incisif de Roger Paul Droit qui s'appelle L'oubli de l'Inde, toute une description très vivante de cette passion, de ces milieux qui s'organisent soit autour de la société asiatique, soit autour de salons, le salon de Madame de Rémusat, enfin il y a un salon de salons de la période de la Restauration en France, où l'on parle vraiment beaucoup de l'Inde. Et c'est dans ce milieu que vont germer un certain nombre de carrières d'indianistes qui furent célèbres en leur temps, que vous ne connaissez pas forcément, comme Eugène Burnouf, et qui sont des personnages qui ont en quelque sorte donné à la recherche indianiste ces lettres de noblesse en France, mais qui ont été par la suite bien oubliées. Bien oubliées, Il y a bien sûr eu un certain nombre d'institutions qui ont donné à ce grand mouvement du début du XIXe siècle une base plus solide. Mais ces institutions sont restées extrêmement parisiennes et finalement fort peu nombreuses. Alors, vous les connaissez, ces institutions, puisque vous les avez fréquentées, que certaines de leurs collections vont se retrouver à la Bulac. Il y a le Collège de France, il y a l'Angso, mais il y a eu aussi, au cours du XIXe siècle, la création de quelques autres institutions, comme l'École pratique des études, qui a été créée en 1868 par Victor Duruy, avec pour objectif de donner au sein de l'Université de Paris, au sein de la Sorbonne, un lieu où l'on puisse faire de la recherche sans nécessairement enseigner. L'idée, c'était de créer des laboratoires d'érudition sur le modèle allemand et d'assurer une véritable formation à la recherche. Il y a également, donc cette école pratique des études s'est ensuite enrichie sous la Troisième République commençante d'une section de sciences religieuses. La création de cette section des sciences religieuses, la cinquième section, correspondant au moment où l'on a cessé d'enseigner la théologie à la Sorbonne. Et il y a eu ensuite création de l'école française d'Extrême-Orient, qui est liée à l'opération de colonisation de l'Indochine en 1898, donc création à Hanoï. Il y a eu dans ces mêmes années le développement et la création du musée Guimet à Paris en 1889, qui est une initiative privée d'un riche mécène lyonnais qui avait en fait commencé par créer un musée Guimet à Lyon et qui a déplacé ses collections à Paris. Bref, tout ceci donne une certaine consistance institutionnelle à l'orientalisme. Là, je n'ai pas parlé que de l'indianisme, mais de l'orientalisme au sens plus large, le musée Guimet n'ayant pas une grande place d'ailleurs à l'Inde, dans la mesure, et c'est ça qui peut nous intéresser, dans la mesure où en fait la France s'est désengagée, je dirais sur le plan politique et même économique, d'un véritable intérêt pour l'Inde, pour concentrer ses attentions sur l'Indochine et sur l'Extrême-Orient. Alors, lorsque, au début du XXe siècle, on s'est avisé, et quand je dis « on », c'est un personnage central dans l'histoire de l'indianisme qui s'appelle Sylvain Lévy. Lorsque on s'est avisé de vouloir créer un lieu qui rassemble toutes ces forces extrêmement dispersées, eh bien, lorsque l'Institut de civilisation indienne a été créé à la Sorbonne, ça date de 1927, bien, l'opération n'a pu avoir lieu que grâce à l'influence personnelle de Sylvain Lévy, mais elle n'est jamais arrivée à véritablement fédérer les études indiennes autour d'un pôle. C'est une longue histoire d'éclatement que l'histoire des études indiennes à Paris. Quant à ce qui se passait dans les régions, eh bien, très tôt a été créée une chaire d'études indiennes à Lyon. Lorsque l'Allemagne a annexé l'Alsace, elle a créé une chaire d'études sanscrites à Strasbourg qui s'est perpétuée après 1918. Il y a eu quelques enseignements à Lille ou à Aix-en-Provence, mais ça n'a jamais créé un tissu. Et là, il faut bien contraster ce qui s'est passé en France, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé en France, de l'extraordinaire développement des études indiennes dans deux pays voisins, l'Allemagne et l'Angleterre, pour des raisons tout à fait différentes. En Allemagne, parce que cette passion pour le sanskrit et cette identification au passé indo-européen représentaient un élément essentiel dans le phénomène identitaire allemand qui s'est développé avant l'unité allemande, avant 70, mais qui a surtout connu un grand développement après et qui a connu une grande dérive, comme vous le savez, à partir des années 1930, puisque vous savez que le swastika est le grand symbole des civilisations indiennes anciennes, et pas du tout seulement aryennes d'ailleurs, parce qu'on trouve le swastika dans toutes sortes de lieux qui sont bien antérieurs, du moins on le considère, à l'arrivée des Aryas en Inde. Donc il y a eu une sorte d'instrumentalisation sur la longue durée de l'Inde dans le paysage académique allemand, et l'Angleterre pour des raisons tout à fait différentes, qui étaient des raisons pratiques. Ce qui m'amène à vous dire quelques mots de l'indianisme britannique. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, cette passion pour l'Inde n'y était pas vraiment partagée. En fait, les Britanniques, qui étaient en train de mettre la main sur le sous-continent, considéraient que l'Inde était un lieu qu'il fallait connaître d'une façon systématique, encyclopédique, pour mieux pouvoir le dominer. Et l'indianisme britannique est un indianisme pratique, un indianisme impérial en quelque sorte. Cette Inde que les Britanniques se représentent au cours du XIXe siècle, d'une Inde qu'ils n'aiment pas au sens où les Français et les Allemands se sont passionnés pour l'Inde. D'ailleurs, l'Inde est toujours plus belle de loin que de près, en fait. C'était déjà vrai, d'ailleurs, du conquérant moghol Babur, qui dans ses mémoires dit que l'Inde est un pays épouvantable, où l'on ne trouve pas de fruits, où l'on ne trouve pas de vin, où il fait une chaleur terrible. Bon, ça a toujours été un petit peu l'image de l'Inde, de ceux qui la conquéraient. L'image britannique de l'Inde, c'est l'image d'un pays qui, à la limite, n'existe pas. L'ancien colonial John Strachey, qui était chargé d'enseigner aux jeunes recrues de la haute administration britannique qui allait être envoyée en Inde après une formation rapide dans un collège à Haileybury, qui se trouve près de Londres. Donc, John Strachey commençait son cours sur la civilisation de l'Inde en disant la chose suivante: l'Inde est un pays qui n'existe pas. L'Inde est une appellation géographique, il reprenait une vieille expression de Metternich à propos d'Italie. L'Inde est une expression géographique qui recouvre une multitude de pays et de peuples divers. Bon, ce genre d'argument qui nous fait penser que les Britanniques ont toujours su diviser pour régner, ce genre d'argument avait quelques bases, en fait, car les Britanniques ont effectivement contribué à faire ressortir la diversité des langues, la diversité des cultures, la diversité des religions de l'Inde au cours des deux siècles, si l'on s'occupe du Bengale qui a été colonisé pendant deux siècles, qui a été dominé pendant deux siècles, ou au cours du siècle unique, si l'on prend le cas du Punjab, région qui n'a été dominée que vers 1850. Donc, si l'on prend cette Inde extrêmement diverse et qui a donc été contrôlée à des dates très diverses par ce qu'on appelle en anglo-indien le Raj, c'est-à-dire la domination britannique, bien cette Inde, finalement, les Britanniques en ont fait ressortir la diversité, la complexité, et en fait, ils ont vidé, en quelque sorte, de sa substance ce bel objet orientaliste que les Allemands ou les Français regardaient avec un regard passionnel. Les Britanniques ont aussi, dans le même temps, affirmé que l'Inde n'avait pas d'histoire. C'est un historien britannique qui s'appelle James Mill, qui est connu des philosophes car c'est le père de John Stuart Mill. C'est un personnage qui a joué un rôle important dans le paysage intellectuel britannique du début du XIXe siècle. Donc ce James Mill, qui n'a d'ailleurs jamais mis les pieds en Inde, qui était un historien de cabinet, a écrit la première histoire de l'Inde, qu'il a d'ailleurs intitulée « Histoire de l'Inde britannique », ce qui est tout un programme. Et dans son « Histoire de l'Inde britannique », qui se composait d'une façon très tranchée de trois périodes, la période hindoue, la période musulmane et la période britannique, dans ce livre paru dans les années 1818, si je ne me trompe, ou 1821-22, James Mill affirmait que l'Inde n'avait pas d'histoire, plutôt qu'il n'avait pas d'historien, ce qui d'un sens est vrai, on va en reparler, mais qu'elle n'avait pas d'histoire, qu'elle avait, qu'il s'agissait d'une sorte de civilisation immobile, non connectée à la civilisation du reste de l'univers, et donc qu'il avait fallu attendre l'arrivée des Occidentaux pour que l'Inde se mette en branle et qu'elle le fasse finalement dans une position qui était présentée comme une position passive. Il y a un véritable imaginaire qui s'est développé chez les Britanniques cette fois-ci et non pas chez les autres Européens. Et cet imaginaire de l'Inde, développé au XIXe siècle par les Britanniques, présente l'Inde sous la forme d'une femme qui est dominée par des Britanniques qui sont présentés comme des super mâles et qui vont finalement faire de l'Inde ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent car, d'après eux, l'Inde est incapable de se gouverner elle seule. Donc il y a tout un stéréotype sexuel qui se met en place, qu'on va retrouver d'ailleurs jusque chez Kipling, bref, qui est une sorte de constante de l'image que les Britanniques donnent de l'Inde, avec quelques exceptions, car naturellement, les Britanniques ont trouvé quand même quelques races martiales, comme ils le disaient en Inde, notamment les Panjabis, ou à la frontière de l'Inde, les Gurkhas, qui étaient bien commodes pour leur servir de soldats dans leur entreprise de conquête, puis de contrôle de l'Inde. Voilà, donc est-ce que l'Inde a une histoire, est-ce que l'Inde existe? C'est une question que se posaient réellement les intellectuels indiens qui, à partir du troisième tiers du XIXe siècle, ont commencé à chercher à se reconstruire en quelque sorte face à ces stéréotypes, face à ces images réductrices qui leur étaient imposées par le colonisateur. Et en fait, l'histoire du mouvement national indien, c'est l'histoire de la reconstruction d'une Inde, d'une image de l'Inde, l'histoire de la reconstruction d'un passé de l'Inde, et c'est un mouvement qui est extrêmement intéressant dans la mesure où il est le premier, probablement l'un des premiers qui se déroule dans ces pays colonisés, dominés. Et il va donner au mouvement national indien une sorte de droit de priorité qui va faire de ce mouvement national indien un véritable modèle pour les pays colonisés. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu, en partant de l'Orient et en allant vers l'Inde et en restant dans le domaine des représentations. Alors, maintenant, je voudrais passer à des considérations un petit peu plus précises et essayer de mieux situer l'Inde. Mais pour certains d'entre vous, ça n'a probablement aucun intérêt parce que vous connaissez cet espace. Situer un peu mieux l'Inde dans sa place dans l'histoire universelle et aussi être un peu plus précis en matière d'espace intérieur de l'Inde, vous parler de ces Indes au pluriel qui, en fait, vont devenir une Inde au singulier, essayer d'interroger ce qui, dans cette indianité, et je dis bien indianité et pas hindouité, je m'expliquerai sur cette différence tout à l'heure, ce qui fait qu'en fait, l'Inde existe bel et bien. Et pour commencer, je voudrais en quelque sorte rattacher complètement l'histoire de l'Inde à l'histoire mondiale. Je pense qu'il est totalement erroné de présenter la civilisation indienne comme une civilisation spécifique, irréductible à d'autres. Je pense que la civilisation indienne s'est constituée par rapports successifs. Par échange intense, aussi bien vers le nord-ouest ou vers l'ouest que vers l'est, et que c'est cette absorption d'apports extérieurs qui progressivement a permis à cette civilisation de prendre ses traits spécifiques. l'un des traits les plus spécifiques étant que dans cet espace ont coexisté et coexistent jusqu'à nos jours, avec difficulté, mais coexistent des systèmes religieux, des langues extrêmement diverses, qui font que l'Inde est en fait un lieu qui n'est pas seulement un lieu de diversité, mais un lieu de coexistence. Alors, situer l'Inde, c'est d'abord la situer par rapport à l'Asie occidentale ou l'Asie centrale, qui, au cours de l'histoire, a été le lieu d'où sont venus de nombreux peuples, de nombreuses influences, qui ont toutes marqué, à des degrés divers, l'identité indienne. Ces peuples ou ces échanges commerciaux qui se sont produits, eh bien, on peut aujourd'hui, avec l'essor des recherches archéologiques, en situer les débuts, eh bien, au début de ce qu'on appelle couramment la révolution néolithique, les points communs et les échanges entre les sites d'habitat rural localisés sur le versant occidental du plateau iranien et sur le versant oriental du plateau iranien sont tellement proches qu'il est clair qu'il y a eu, dès, disons, le 8e millénaire avant l'ère chrétienne, des échanges importants entre ces deux parties du monde très ancien. Les échanges se sont poursuivis lorsque se sont développées des civilisations de type des civilisations agricoles intensives dans deux parties du monde qui s'appellent, que nous appelons la Mésopotamie, autrement dit l'Irak, et cette civilisation dite de l'Indus, mais qui était bien plus large que la zone de la vallée de l'Indus, cette civilisation que l'on pourrait qualifier de Mésopotamie indienne. Il y a là deux civilisations tout à fait contemporaines, la civilisation de l'Indus est contemporaine de Sumer, grosso modo, et deux civilisations qui ont eu des échanges probablement importants. On ne peut pas argumenter beaucoup parce qu'on n'a toujours pas déchiffré l'écriture des marchands qui, établis dans la région de l'Indus, faisaient le commerce avec la Mésopotamie irakienne, mais il est clair qu'il y avait là un milieu qui était un milieu où se faisaient des échanges à longue distance, et c'est une civilisation qui était fondamentalement marchande, très probablement, qui avait des éléments de culture matérielle étonnamment unifiés. On a constaté, par exemple, que cette civilisation utilisait des poids et des mesures absolument identiques entre les zones situées au nord de l'Afghanistan, la région de Mascate, où il y avait une cité de ce type-là, et les régions situées pas très loin de l'actuel Bombay. Donc une unification extraordinaire, des poids, des mesures, des échanges intensifs, un urbanisme très développé, tout cela ce sont des choses bien connues, mais qui doivent être resituées dans un ensemble qui est un ensemble beaucoup plus vaste, qui est l'ensemble du monde du troisième millénaire avant l'ère chrétienne et du deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, qui est une période durant laquelle un extraordinaire développement matériel s'est produit dans cette partie de l'Asie. Donc, de ce point de vue-là, l'Inde est totalement intégrée à un espace qu'on qualifierait aujourd'hui de Moyen-Oriental par commodité, mais je vous dis que cette expression de Moyen-Orient est particulièrement vague. Bien, par la suite, ce que l'on sait de l'histoire de l'Inde continue à la rattacher à cette même région ou à ces mêmes régions, avec peut-être une prédominance des influences venues de l'Asie centrale, des zones situées un peu plus au nord-ouest que ne l'étaient les régions de la Mésopotamie irakienne. Et c'est à cette période qui correspond au deuxième millénaire, au milieu du deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, que se produisent des mouvements de population qui amènent en Inde, mais pas seulement en Inde, également en Iran, des porteurs d'une culture particulière qui a des points communs avec la culture qui se développe en Europe à la même période. Je ne vais pas élaborer là-dessus, si ce n'est pour vous dire, et ça nous ramène à ce problème identitaire qu'ont eu les Indiens lorsque, à la fin du XIXe siècle, ils ont commencé à contester l'image que les Britanniques donnaient d'eux, si ce n'est pour vous dire donc qu'un certain nombre d'Indiens ont affirmé que cette civilisation dite aryenne, du mot arya qui signifie noble dans ces langues, cette civilisation dite aryenne, eh bien, un certain nombre de nationalistes indiens, depuis la fin du XIXe siècle et jusqu'à nos jours, ont continué à défendre la thèse d'après laquelle elle venait d'Inde et pas du tout d'Asie centrale. Ce genre d'argumentaire qui n'est pas très solide sur le plan scientifique s'explique très bien par le fait que la thèse indo-européenne a été utilisée au cours à la fin du XIXe siècle en particulier par les Britanniques pour justifier la domination de l'Europe britannique sur l'Inde en disant que finalement c'était une retrouvaille de cousins et que les cousins pauvres qui étaient à l'origine les cousins britanniques, puisque cette civilisation britannique à la période où l'Inde fleurissait au premier millénaire avant la chrétienne était fort peu développée, avait connu un très grand développement et qu'il est tout à fait justifié que les Britanniques, étant devenus beaucoup plus puissants que les Indiens, reviennent vers l'Inde et rendent à l'Inde sa dignité ancienne en l'aidant à se développer. Toute cette idéologie s'est développée en fait à la fin du XIXe siècle chez certains Britanniques et c'est une des réactions les plus visibles du nationalisme indien que d'avoir cherché à inverser le phénomène et à affirmer qu'en fait tout venait d'Inde. Et en cela, il reprenait d'ailleurs le discours des germanistes, des chercheurs, des orientalistes allemands ou français du début du XIXe siècle qui prétendaient qu'effectivement tout venait d'Inde. Prenez par exemple Friedrich Schlegel qui a écrit tout un livre au début du XIXe siècle en soutenant cette thèse. Voilà, donc disons que cette histoire de l'Inde reste très liée à celle de l'Asie centrale, de façon ou d'une autre, et elle va continuer à être nourrie, cette histoire de l'Inde, par les échanges à travers cette zone qui est une zone au travers de laquelle les Indiens n'ont jamais construit de grandes murailles. Contrairement à la Chine, qui a voulu se protéger des influences venues du Nord-Ouest, eh bien, aucun pouvoir n'a jamais cherché à bloquer l'arrivée de populations, l'arrivée d'influences venues du Nord-Ouest en direction de l'Inde. Donc, situer l'Inde, c'est la situer par rapport à ce Nord-Ouest, c'est la situer également par rapport à l'Est. Et l'Orient de l'Inde, ou plutôt les Orients de l'Inde, sont des Orients qu'on peut atteindre en passant par le Nord, en faisant le tour du Tibet, ou qu'on peut atteindre par voie maritime. Et il faut rappeler, enfin je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, mais c'est jamais inutile de le rappeler, il faut rappeler à quel point, en fait, l'Asie orientale a été influencée par les échanges avec l'Inde, au cours d'une période que l'on commence à saisir aux alentours du début de la chrétienne, mais qui est probablement beaucoup plus ancienne. Les échanges sont des échanges par voie terrestre. Ce sont les marchands indiens, ou les marchands tibétains, ou les marchands cachemiris, ou les marchands des oasis, des zones qui sont aujourd'hui des oasis du Turkestan, qui vont développer un commerce qui est un commerce très lent, bien sûr, il faut des mois, voire des années pour aller de la Chine à l'Inde, mais un commerce qui se met à jouer un rôle fondamental, puisque sur ces routes commerciales vont circuler également les idées, et notamment le bouddhisme. Donc ce phénomène d'expansion du bouddhisme, mais pas seulement du bouddhisme, d'expansion aussi des écritures indiennes, d'expansion d'un certain nombre d'éléments fondamentaux de la culture indienne, va connaître un développement très particulier au cours du premier millénaire de l'ère chrétienne. Mais l'expansion se fait aussi par voie maritime, et l'on voit très tôt les aventuriers indiens partir vers ce qui est aujourd'hui le sud du Vietnam, voire plus loin, jusque vers la Chine du Sud. Et parmi ces aventuriers, vous le savez probablement, il n'y a pas que des commerçants. Il y a aussi des lettrés, il y a aussi des gens qu'on appelle les brahmanes. On prétend que les brahmanes n'ont pas le droit de voyager au-delà des mers, que sinon ils perdent leur caste. Ce trait de la culture brahmanique, ce trait de la culture des lettrés de l'Inde ancienne, des prêtres de l'Inde ancienne, s'est probablement accentué à des périodes relativement récentes. En tout cas, il est très clair que, à ces périodes anciennes, les brahmanes voyageaient et que les brahmanes apparaissaient comme des porteurs d'une culture qui avait beaucoup de mérite aux yeux des peuples de l'Asie du Sud-Est, puisqu'ils ont adopté un certain nombre de légendes, de mythes, puisqu'ils ont adopté les grandes épopées indiennes, la Ramayana et le Mahabharata, puisqu'ils se sont en fait nourris de culture indienne. Quand je dis « ils », il s'agit principalement des cours princières de ces petits états qui étaient en train de se constituer en Asie du Sud-Est. Et c'est comme ça que l'appellation Inde insulaire, insulinde, Inde semi-chinoise, Indochine, Indonésie, c'est pour cela que cette appellation a un sens. Et c'est pour cela que l'expression Inde au pluriel me semble tout à fait justifiée lorsque l'on considère l'importance qu'a eu cet Occident, qu'était l'Inde, pour les pays en question, et la façon dont ces pays se sont nourris en quelque sorte d'éléments apportés par la culture indienne pour se constituer une identité qui était une identité nouvelle. Cette diffusion d'ouest vers l'est, où finalement l'Inde apparaissait comme un pays occidental, un pays relais d'influence occidentale, eh bien, cette diffusion sur un continuum entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie s'est poursuivie avec la diffusion de l'islam. Il n'y a pas de phénomène culturel qui marque plus visiblement que l'islam cette continuité entre l'Est et l'Ouest. L'islam s'est diffusé en direction de l'Asie du Sud-Est, de Java en particulier, à l'initiative de gens qui étaient en fait ceux qui, durant les siècles précédents, avaient été les porteurs de systèmes religieux différents, de mythes différents. Finalement, c'est sur les mêmes routes de navigation qui avaient été empruntées par les brahmanes ou par les moines bouddhistes que, à partir du début du deuxième millénaire, vont se diffuser les systèmes religieux islamiques. Et ce sont souvent des Indiens, notamment des Gujaratis, qui vont être à l'origine de la conversion des populations côtières de l'Asie du Sud-Est, suivant donc le même phénomène d'influence de l'Ouest vers l'Est, l'Inde étant en l'occurrence la porteuse de systèmes d'origine occidentale. Ce même phénomène s'est poursuivi d'ailleurs à partir du XVIe siècle, lorsque les Portugais ont installé à Goa leur principal centre de diffusion missionnaire en direction de l'Asie, et lorsque, à partir de Goa, un certain nombre de missions, celles de François Xavier et d'autres, ont diffusé le christianisme jusqu'au Japon. Donc on a des phénomènes qui sont des phénomènes dans lesquels l'Inde est totalement intégrée à la géographie culturelle et à l'histoire d'un ensemble eurasiatique dans lequel elle occupe une place tout à fait centrale. Le phénomène prend également une dimension économique et commerciale essentielle à partir du XVIe et du XVIIe siècle. On ne saurait trop insister sur la place centrale de l'Inde dans le phénomène de mondialisation, on peut l'appeler comme cela, qui se produit au cours de ces siècles durant lesquels les Européens cherchent à acheter des produits orientaux, entre guillemets, et en l'occurrence, l'Inde, qui produit des épices, mais pas en très grande quantité, va devenir l'espace qui va produire ces textiles qui seront tellement recherchés à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle et qui vont attirer la Grande-Bretagne et la conduire en tant que puissance commerciale, car je vous rappelle que ce n'est pas le royaume uni qui va conquérir l'Inde, mais une compagnie privée de marchands de Londres, la Compagnie des Indes Orientales, qui va donc conduire au cours des XVIIe et XVIIIe siècles ces marchands européens à mettre la main sur le continent. Donc place centrale de l'Inde, mais place problématique. L'Inde, en fait, est à l'époque une zone qui vend beaucoup plus à l'Europe qu'elle ne lui achète. L'Inde va apparaître comme un problème pour les compagnies européennes parce que les compagnies européennes n'ont rien à donner en échange à l'Inde que des métaux précieux. Ce sont les métaux précieux venus d'Amérique, extraits en Amérique, qui vont être recyclés en quelque sorte par les compagnies européennes et être envoyés en Inde au cours du XVIIe et XVIIIe siècle pour solder les échanges, pour solder ces tissus de coton ou de soie d'excellente qualité que l'Inde envoie en Europe, car je vous ai parlé tout à l'heure de la passion pour l'Inde, de la passion intellectuelle pour l'Inde au début du XIXe siècle, mais en fait, il y a eu une autre passion pour l'Inde qui est nettement antérieure, qui remonte à la fin du XVIIe siècle, et qui est la passion pour les produits indiens. Et cette mode indienne extraordinaire, qui a duré un bon siècle, a été un élément essentiel qui a attiré les Européens, et notamment les Britanniques, et les a conduits à mettre la main sur un continent très peuplé, très développé pour l'époque, et qui leur posait donc ce problème d'équilibre des échanges. La mainmise britannique est donc le dernier épisode de ces échanges mondiaux, de cette mondialisation de l'Inde, qui montre bien la place de l'Inde dans un monde qui est un monde très largement dominé à partir du début du XIXe siècle par les Européens. Voilà donc, pour resituer l'Inde dans l'histoire du monde, cette place centrale qu'elle a occupée depuis la plus haute antiquité et jusqu'à une période très récente. Donc cette redécouverte de l'Inde au début du XXIe siècle, quand on parle aussi bien des productions culturelles que de l'esprit d'entreprise des Indiens, c'est quelque chose qui n'est absolument pas une découverte, c'est un phénomène de longue durée qui remonte très très loin dans le temps. Pour terminer, je voudrais revenir sur cette diversité de l'Inde et sur la capacité de ce pays à faire vivre ensemble tant bien que mal, et cela en dépit même de la coupure qui est intervenue en 1947 au moment du partage entre l'Inde et Pakistan, de faire coexister tant bien que mal des individus ou des groupes ou des communautés ayant des systèmes de référence assez différents les uns des autres. Bon, je vous rappelle que l'Inde est quand même le plus grand pays du monde où coexiste une très forte minorité musulmane. Il y a autant de musulmans en Inde qu'il y en a au Pakistan ou qu'il y en a au Bangladesh. Si vous prenez les musulmans d'Asie du Sud, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, une très forte minorité musulmane installée depuis de de très nombreux siècles, avec une majorité qui ne l'est pas, et avec un certain nombre d'adeptes d'autres systèmes religieux. Mais l'Inde, c'est aussi un pays où coexistent des populations parlant des langues extrêmement différentes, entre lesquelles il n'y a pas tellement d'intercompréhension. Il n'y en a pas du tout entre les langues du sud, dites dravidiennes, et les langues du nord, et où l'intercompréhension entre le bengali, la langue hindi ou le punjabi est la même que celle qui peut exister entre le français, l'espagnol ou l'italien. Il y a dans ce continent, dans cet espace aux dimensions de l'Europe, ne l'oubliez pas, une véritable coexistence qui, tant bien que mal, s'est mise en place au cours des millénaires et qui a subsisté à la période contemporaine. Cette coexistence a fait que l'Inde n'a pas volé un éclat. Si vous vous reportez aux écrits des pandites, pour reprendre un terme indien, en sciences politiques des années 1950, juste après la naissance de l'Union indienne, bien beaucoup de ces spécialistes de l'Inde prédisaient que l'Inde allait éclater, que l'Inde était promise à des tempêtes et que l'Inde serait un pays fondamentalement instable. 60 ans plus tard, on voit qu'il n'en est rien. Bon, ça ne dit pas que l'Inde soit un pays d'une stabilité politique extraordinaire, mais comparé à ses voisins, la différence est criante. Donc, il y a véritablement une tradition de consistant à vivre les uns à côté des autres, pas forcément ensemble, mais vivre les uns à côté des autres, qui est assez caractéristique de l'Inde. Dans ce contexte-là, on peut situer d'ailleurs le phénomène de persistance du système des castes, qui peut apparaître comme une bizarrerie, mais qui en fait a contribué, d'un sens, à cette possibilité de vivre côte à côte. En tout cas, c'est la thèse défendue par Christophe Geoffrelot dans un livre qui s'appelle « La démocratie au pays des castes ». Voilà donc quelques généralités sur la diversité de l'Inde. Maintenant, si on regarde les choses d'un peu plus près, il est évident que l'Inde d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Union indienne, l'Inde qui est née de l'éclatement de l'ancienne Inde britannique, mais qui n'était pas qu'Inde britannique, puisque je vous rappelle qu'en 1947, il y avait une multitude d'États princiers, qui étaient des protectorats de la Grande-Bretagne au sein de l'Inde. Donc cette Union indienne née en 1947, est un pays qui a géré sa diversité avec plus ou moins de bonheur. Il y a évidemment des lieux de tension, des lieux de crise comme le Cachemire. Il y a eu également des crises au Punjab. Il y a des crises en permanence dans les zones nord-est du pays. Néanmoins, c'est un pays qui a organisé un système institutionnel qui a résisté à toutes les tentatives de déstabilisation depuis 60 ans. C'est un pays dans lequel il n'y a pas de tentation de coup d'état militaire, contrairement à ce qui se passe chez ses voisins. C'est un pays qui, en dépit des violences qui affectent périodiquement les relations entre les musulmans et les hindous, est arrivé jusqu'à présent à maintenir une sorte d'équilibre, en dépit du fait que le Pakistan voisin représente un facteur de déstabilisation évident. Voilà, donc cette Inde extrêmement diverse qui arrive à gérer sa diversité, eh bien, où est-ce qu'elle a trouvé cette capacité à gérer cette diversité et où est-ce qu'elle a trouvé quand même des ferments d'unité. C'est le problème que se posait les nationalistes indiens à la fin du XIXe siècle. C'est le problème qui s'est posé tout au long de cette période qui a conduit l'élite nationaliste indien à revendiquer d'abord des droits égaux avec les Britanniques, puis l'indépendance de l'Inde. C'est ce qui s'exprime parfaitement dans un livre dont je vous conseille la lecture parce que ça c'est passionnant et très facile à lire, qui s'appelle « La découverte de l'Inde » qui a été écrit par Nehru dans les années où il était en prison pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a été récemment traduit en français, qui se trouve facilement. Donc, qu'est-ce qui fait l'unité de l'Inde? Qu'est-ce qui fait que ce pays tient ensemble en dépit de sa diversité? Bien, il y a toutes sortes de réponses possibles. Bien sûr, il y a une réponse qui est celle prétendent donner à la question ceux qu'on appelle les nationalistes hindous, les partisans de ce qu'on appelle aujourd'hui en Inde l'hindutva, c'est-à-dire l'hindouité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie? C'est cette théorie qui consiste à dire que ce qui fait tenir à l'Inde ensemble, c'est l'idéologie développée par les brahmanes depuis l'Antiquité, c'est l'action menée par ces mêmes brahmanes, cette aristocratie de lettrés qui, au cours des âges, en dépit du fait que les pouvoirs politiques qui se succédèrent en Inde ne reconnaissaient pas la valeur de l'idéologie des brahmanes comme élément constitutif de l'État, ce sont ces brahmanes qui, constituant l'armature de la société, ont perpétué l'idée de l'Inde. Bon, ça c'est la thèse donc de ceux qui affirment que les musulmans ou les chrétiens sont étrangers à la culture indienne et qu'il ne faut pas leur donner des droits égaux. Mais cette théorie de l'hindutva, qui s'est développée depuis la fin du XIXe siècle, qui a été incarnée au début du XXe siècle par un homme qui est beaucoup moins connu que Gandhi, mais qui s'est affronté à Gandhi, qui s'appelle Savarkar, cette théorie de l'hindutva a toujours été remise en cause par d'autres Indiens, issus d'ailleurs des mêmes milieux intellectuels et souvent des milieux brahmaniques, qui ont défendu la thèse d'après laquelle ce qui faisait l'Inde, ce n'était pas l'hindouisme est d'ailleurs un néologisme, mais une volonté de vivre ensemble. Disons qu'ils ont défendu l'idée qu'il y avait une sorte de sentiment national indien qui aurait toujours existé, qui se serait exprimé à des échelles très différentes, à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle de l'ensemble du pays, et qui prennent un certain nombre de figures dans l'histoire indienne comme figures tutélaires. Il se trouve que le seul grand roi, le seul empereur qui ait laissé des témoignages de sa façon de gouverner, Ashoka, plutôt celui que les bouddhistes appellent Ashoka, qui est donc un souverain du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, eh bien, il se trouve que cet Ashoka a laissé des inscriptions, a couvert en fait les limites de son empire d'inscriptions sur des colonnes ou sur des rochers, dans lesquels il affichait ce qu'il estimait être les principes du bon gouvernement. Ces inscriptions avaient pour fonction de servir de témoin et de référence aux administrateurs qu'il avait postés aux quatre coins de son empire, et cela laisse entendre qu'en fait, beaucoup d'Indiens étaient capables de lire dès cette époque-là, alors que, semble-t-il, l'écriture était apparue très très peu de temps auparavant. Et donc, dans ces inscriptions, qui sont traduites en français, que vous trouvez assez facilement aux éditions des Belles Lettres, Ashoka affirme que le bon gouvernement, c'est celui qui est fondé sur la tolérance, qui est fondé sur le fait que les différentes sectes, comme il dit, peuvent apprendre l'une de l'autre et qu'aucune n'est supérieure à l'autre. Alors, ces principes de bon gouvernement, qui n'ont probablement pas été tellement appliqués après Ashoka, mais qui posaient quand même une référence, ont été en quelque sorte repris par tous les Indiens qui ont cherché dans le passé, et là on pouvait effectivement refaire l'histoire de l'Inde grâce aux inscriptions d'Ashoka, qui ont cherché dans le passé des points d'appui. Il se trouve qu'Ashoka avait été fortement influencé par le bouddhisme, et donc un certain nombre d'Indiens
ont cherché dans le bouddhisme un élément de référence culturelle fondateur à une indianité qui, par ailleurs, était une indianité qui s'est diffusée à l'extérieur, puisque le bouddhisme s'est diffusé, c'est l'élément de la culture indienne qui s'est diffusé en Asie, contrairement, ou en tout cas beaucoup plus que l'hindouisme. Mais le bouddhisme posait un problème. Le bouddhisme posait un problème aux Indiens comme élément de référence, puisque le bouddhisme a disparu d'Inde au cours des millénaires, que les derniers bouddhistes indiens, ce sont ceux qui ont quitté le Bengale au moment où les conquêtes turques du Bengale ont détruit les derniers monastères bouddhiques. Ces bouddhistes se sont réfugiés au Tibet ou en Birmanie. Et donc le bouddhisme s'est maintenu qu'à la périphérie de l'Inde, à Sri Lanka, en Birmanie, au Tibet ou dans quelques vallées himalayennes du Népal. Donc la référence bouddhique était une référence qui historiquement était difficile à valoriser. Les Indiens que l'on peut qualifier de laïcs, encore que le mot soit tellement chargé en France qu'il vaudrait mieux employer le mot indien, plutôt anglo-indien, de séculariste, ces Indiens qui ont cherché donc une indianité ailleurs que dans l'hindouisme, et qui ont dû la chercher aussi ailleurs que dans le bouddhisme, puisque le bouddhisme avait disparu du pays qui l'avait vu naître, ont finalement cherché cette indianité dans la capacité des élites indiennes, puis des masses indiennes, à se mobiliser autour d'une idée. Une idée qui était l'idée d'indépendance, bien sûr, mais également de maîtrise de soi, d'indépendance maîtrisée, d'indépendance authentique. Et c'est là que le message de Gandhi prend tout son sens. Alors, je ne veux pas vous parler de Gandhi, sinon il faudrait des heures et des heures, mais ce que je voudrais vous dire de Gandhi, dans cette perspective, c'est simplement le fait que Gandhi a eu pour objectif politique et sociale d'amener les Indiens et notamment les nationalistes indiens, ses contemporains, à maîtriser, à contrôler et à pleinement vivre leur identité et leur identité d'Indien avant de prétendre conquérir leur indépendance. Il y a là une sorte de détour tout à fait intéressant et typiquement indien, qui a été en quelque sorte imposé par Gandhi à ses disciples, ou plutôt aux nationalistes, aux jeunes nationalistes qui l'ont suivi, à des gens comme Nehru, et qui a consisté à leur dire, vous ne pouvez pas vous libérer de la tutelle britannique, vous ne pouvez pas affirmer votre indianité si vous ne commencez pas par vous réformer vous-même. Il y a un mouvement qui pousse les Indiens vers la réforme de soi et vers la recherche d'une identité de soi extraordinaire à partir de la fin du XIXe siècle. Et cela, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas tellement dans d'autres pays qui ont connu le même destin que l'Inde. Et cette recherche, qui n'a pas forcément abouti d'ailleurs, mais qui a eu le mérite d'exister, est quelque chose qui doit se lire dans la perspective qui est la nôtre et qui est celle de l'Inde en tant qu'objet d'étude. En effet, lorsque ce qu'on appelle les réformateurs, les adeptes de la Renaissance de l'Inde, ont commencé à faire entendre leur voix, cela correspond aux années 1820-1830 pour les tout premiers, ce qui, vous voyez, les met chronologiquement à égalité avec les Européens orientalistes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les choses ont commencé au Bengale avec un érudit indien qui s'appelle Ram Mohan Roy, qui est le premier à s'être posé ces questions. Et puis, ce mouvement de réforme s'est poursuivi tout au long du XIXe siècle avec toutes sortes de tentatives extrêmement diverses et variées. Eh bien, tous ces réformateurs, tous ces partisans d'une renaissance indienne, ont posé d'une façon extrêmement claire la question de leur rapport avec l'Ouest. En fait, je l'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait peut-être pas d'occidentalisme en Orient. Maintenant, je vais me contredire et je vais vous dire que peut-être que ces Indiens du XIXe siècle, ces Bengalis, puisque c'est à Calcutta, au Bengale, que le mouvement s'est développé, sont véritablement les occidentalistes de l'Orient. Lorsque la première société asiatique a été fondée à Calcutta par William Jones en 1780 et quelques, eh bien, elle a compris tout de suite quelques brahmanes et également quelques oulémas qui étaient chargés au départ de servir en quelque sorte d'informateurs aux orientalistes britanniques qui constituaient un savoir sur l'Orient, sur l'Inde. Eh bien, ce sont ces informateurs, ces lettrés locaux qui ont pris en quelque sorte leur autonomie, qui ont pris en main le savoir sur l'Inde, qui, après avoir été les auxiliaires des Britanniques, sont devenus, au cours du XIXe siècle, les véritables acteurs d'un savoir qui n'était pas seulement un savoir sur l'Inde. Bien sûr, au début, ce que les Britanniques leur avaient demandé, c'était de leur traduire les Upanishads, de leur traduire la loi coranique, de leur traduire les textes fondamentaux qui étaient nécessaires aux Britanniques pour mieux gouverner l'Inde. C'était ça l'objectif des Britanniques. Mais c'est dans ce milieu de traducteurs, d'auxiliaires, d'interprètes, qu'est apparu un mouvement qui est devenu un mouvement de réflexion non seulement sur l'indianité, mais aussi sur l'Europe, sur l'occidentalité. Ces gens qui avaient été chargés de traduire dans les langues occidentales, en anglais en particulier, ces textes, sont devenus non seulement des grands spécialistes des textes indiens, qui se sont mis ensuite à éditer eux-mêmes, ils ont fait des éditions critiques qui aujourd'hui font autorité, mais ces gens-là sont devenus aussi des grands spécialistes de la Bible, par exemple. Ils se sont beaucoup intéressés aux textes fondateurs de l'Occident, et ils ont été amenés à se confronter notamment aux missionnaires protestants qui étaient venus en Inde à partir des années 1820 et qui cherchaient à convertir, avec d'ailleurs beaucoup moins de conviction et d'efficacité que les jésuites, leurs prédécesseurs, les populations asiatiques. Donc ils sont confrontés à eux avec une connaissance tout à fait exceptionnelle de la culture européenne. Ces Indiens ont envoyé leurs enfants, quand ils en avaient les moyens, dans les grandes universités britanniques, à Oxford et à Cambridge. Ce sont ces enfants qui, de retour en Inde et porteurs d'une double culture, sont devenus les véritables ferments du mouvement national indien. Et plusieurs générations plus tard, ce sont ces Indiens qui sont devenus les fers de lance de la recherche en sciences sociales dans certaines universités américaines, sans parler naturellement de la recherche dans les mathématiques, l'informatique ou un certain nombre de sciences dures dans les mêmes universités des pays dits occidentaux. Donc tout ceci pour vous dire que, en fait, le mouvement national indien est un élément d'un mouvement plus vaste qui a commencé avant et qui s'est poursuivi bien après et qui a mené les intellectuels indiens qui regardaient vers l'Ouest à en quelque sorte s'approprier un savoir universel incluant un savoir sur l'Ouest et à le marier avec leur propre savoir autochtone. Alors, ceci dit, les Indiens ne sont sûrement pas les seuls à avoir eu cette expérience, même s'ils sont probablement les premiers, ou parmi les premiers à l'avoir eu. Et ceci dit, tous les Indiens ne sont pas dans le même cas de figure. Et ce mouvement universaliste, que l'on voit très bien à l'œuvre chez les intellectuels indiens, qui est porté par la connaissance de la langue anglaise, ne l'oublions pas, parce que la langue anglaise a été le vecteur de ce savoir. La langue anglaise a, comme vous le savez, remplacé le persan comme langue de communication dans cette partie du monde. Eh bien, ce vecteur de la langue anglaise a été aussi le vecteur d'autres idéologies. Et il y a également en Inde, dans l'Inde prise au sens large, dans l'Inde d'avant la partition, d'avant 1947, les ferments de toute une série de mouvements qui sont au contraire des mouvements identitaires forts. Je ne prendrai que le cas des mouvements islamiques qui se sont développés très largement à partir du milieu des madrasas établis en Inde du Nord dès le XIXe siècle et qui ont diffusé un mouvement de rénovation islamique qui aujourd'hui a pris l'ampleur que vous connaissez. C'est en particulier dans la petite ville de Deoband qui est située tout près de Delhi que s'est construite une idéologie qui est l'idéologie qui aujourd'hui est au fondement de mouvements fondamentalistes islamiques qui s'inspirent bien sûr de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite avec les Wahhabites un siècle plus tôt, mais qui a donné cette diffusion populaire à l'islamisme que l'on connaît aujourd'hui, par exemple au Pakistan. Tout ceci est né en Inde. Est également née en Inde cette idéologie de l'Hindutva dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une idéologie qui est fondée sur l'idée d'exclusion et sur l'idée de construction d'un hindouisme et de création en quelque sorte d'une église hindou-universelle. En effet, si l'on observe ce qu'est ou ce qu'a été l'hindouisme jusqu'à des périodes relativement récentes, on constate qu'il s'agit d'une sorte de nébuleuse religieuse, constituée en secte se réclamant de fondateurs, de gourous, mais extrêmement diversifié, adorant des dieux très divers, et que l'hindouisme en tant qu'entité est quelque chose qui ne s'est véritablement formé que durant la période de domination britannique et par réaction face à un christianisme qui se présentait comme un phénomène relativement unitaire, ayant son livre de référence, même si dans le cas britannique, ce n'était pas un christianisme fondé sur la domination de Rome. Donc il y a eu un mouvement très tôt d'affirmation d'un hindouisme en quelque sorte ecclésial, avec la volonté de créer une sorte d'église hindou-universelle. C'est le projet d'ailleurs d'une association qui s'appelle l'Association Hindou-Universelle, qui est très active aujourd'hui, mais qui n'est pas parvenu en quelque sorte à ses fins. Il n'empêche que là aussi, l'impact de l'Occident est un élément important dans la compréhension de ce qui s'est passé en Inde et plus généralement en Orient. Cette volonté de constituer une sorte de structure monolithique qui ne correspondait absolument pas à l'expérience historique et culturelle de l'Inde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, je crois que j'ai largement dépassé le temps que je m'étais imparti, donc je vais m'arrêter ici et j'espère qu'il y aura quelques questions.
Moi, je voulais au moins remercier Monsieur Meyer de la capacité qu'il a eue à mettre en ordre et en forme les petites bribes de choses que je ne savais même pas savoir sur l'Inde. En fait, grâce à vous, tout d'un coup, là, je ressors avec la sensation que d'abord, je savais quelques petites choses et vous m'avez mis tout ça en forme et en ordre. Et vraiment, c'est un grand plaisir. J'espère que ça l'a été aussi pour tout le monde. Mais non, moi, je n'ai pas de questions. En tout cas, c'était parfaitement clair. On a l'impression d'avoir survolé le monde, l'histoire avec un tel brio que je n'oserais pas poser de questions personnellement. N'y en a-t-il vraiment pas une seule dans la salle ? Moi, personnellement, je ne m'étais même pas aperçue qu'il n'y avait plus de bouddhistes en Inde. Enfin, je ne le savais pas comme ça. Je n'aurais pas su le dire. Je n'y avais pas réfléchi.
Il y en a de nouveau.
Ah !
Il y en a de nouveau. Depuis 1956, il y a des bouddhistes en Inde qui sont des convertis. En fait, lorsque le mouvement des intouchables indien qui a été animé par un homme qui s'appelait Ambedkar a cherché à émerger politiquement, les intouchables ont voulu d'abord créer des partis. Donc on a créé un parti républicain,
Puis ensuite, Ambedkar, le fondateur de ce mouvement, s'est rapproché du parti du Congrès, du parti de Nehru. Et puis, finalement, il a cherché à organiser les intouchables sur une base religieuse, considérant qu'en fait, l'intouchabilité était le fruit de l'appartenance à l'hindouisme, ce qui est vrai. En fait, le système d'intouchabilité est un système qui est lié à cette idée que la société est hiérarchisée en fonction d'éléments religieux et que les brahmanes, au sommet de l'échelle sociale, ont besoin de gens qui portent sur eux toutes les souillures du monde. Et c'est ça la fonction idéologique, si vous voulez, des intouchables. Et donc, Ambedkar a dit, mais tant que les intouchables sont dans un système hindou, ils garderont le stigmate de l'intouchabilité. Donc, les intouchables, ou en tout cas certains intouchables, se sont, sous son influence, convertis au bouddhisme. Et donc, aujourd'hui, il y a quelques millions, quelques dizaines de millions de bouddhistes qui sont tous d'origine intouchable, qui sont même tous pratiquement originaires de la caste intouchable d'où était originaire Ambedkar, c'est-à-dire une caste de l'ouest de l'Inde. Il y a donc de nouveau des bouddhistes en Inde.
Juste quelques millions.
Juste quelques millions, oui, non, mais on est dans l'échelle. L'échelle de base, c'est le million ou le milliard, puisqu'il y a 1,2 milliard d'Indiens. C'est pas une question de loi. En fait, l'intouchabilité est abolie en Inde, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue juridiquement depuis 1950, depuis la formation de la Constitution de l'Inde. Mais en même temps, tout en étant abolie, elle est reconnue parce que les constituants de l'Inde ont voulu établir un système de discrimination positive en faveur des intouchables. En leur permettant d'avoir accès à des postes de la fonction publique qui leur sont réservés, en leur permettant d'avoir des représentants à la chambre basse sur des circonscriptions qui leur sont réservées. Donc paradoxalement, les intouchables sont listés, d'ailleurs c'est l'expression, disons qu'il y a une sorte d'euphémisme, en Inde on ne parle pas d'intouchables, on dit les « scheduled castes », c'est-à-dire les castes de la liste, les castes du répertoire. Et donc, ces intouchables, effectivement, ils bénéficient d'un certain nombre de mesures de discrimination positive, de même qu'une autre catégorie très importante, qui est la catégorie des aborigènes. Alors, pour vous donner un ordre d'idée du nombre de personnes concernées, les aborigènes, c'est 70 millions de personnes. Les intouchables, c'est 130 ou 140 millions, vous voyez. Et l'échelle indienne. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a jamais eu de loi qui empêchait les intouchables d'exercer d'autres professions ou de se marier avec... il n'y a jamais eu de loi puisque l'intouchabilité n'est pas reconnue juridiquement. Ceci dit, il y a des pratiques et pour sortir de ces pratiques, il faut une certaine dose de courage. Par exemple, vous savez que le système des castes est fondé sur le principe même du mariage arrangé. Et donc, en Inde, aujourd'hui encore, la plupart des mariages sont arrangés. Bien sûr, il y a des gens qui se marient sans demander l'avis de leurs parents, mais la plupart des mariages sont arrangés. Et lorsque les mariages sont arrangés, ils doivent être arrangés en fonction de considérations qui sont des considérations d'horoscope, c'est tout à fait important. Regardez les petites annonces matrimoniales des journaux ou sur Internet, où il y a un nombre extraordinaire de sites de mariage indien. Vous verrez qu'on demande l'horoscope. On demande généralement la caste, ou alors on dit caste immatérielle, tout ça est en anglais, hein. Maintenant on demande de plus en plus les revenus du futur ou de la future, s'il a une formation dans une université américaine ou autre, etc. Bon. Mais c'est sûr que la caste, la perpétuation de la caste est fondée sur les pratiques les pratiques matrimoniales, sur les systèmes d'alliance. Alors pour les intouchables, c'est sûr que les intouchables continuent à se marier généralement dans leur caste. Alors il y a toute une série de castes d'intouchables différentes, hein. Il y a des gradations à l'intérieur de l'intouchabilité.
mais qu'il est aussi pas rare que des intouchables se marient avec des gens d'autres castes, notamment dans les milieux urbains. Ceci dit, aucune profession n'a jamais été interdite aux intouchables. L'ancien président de la République indienne, Narayanan, était originaire d'une caste qui, au XIXe siècle, est considérée comme intouchable. Vous avez de nombreux intouchables qui sont hommes d'affaires, qui sont hauts fonctionnaires, etc. Donc il n'y a absolument pas de profession qui leur soit interdite. Le problème, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'on n'imagine pas qu'un brahman, que quelqu'un d'autre caste, puisse exercer la profession de déboueur, de boucher, de balayeur, etc., ou même de blanchisseur, qui sont des professions qui sont censées être polluantes. Alors, en fait, dans le système indien, on a systématisé des choses qui existent dans toutes les civilisations. Bon, les castes, ça existe partout, y compris chez nous. Simplement, dans le système indien, elles ont été, disons, à la période où les lois brahmaniques étaient finalement le critère, la référence, eh bien, ce système a été en quelque sorte officialisé. Alors, les Britanniques ont continué à l'officialiser, c'est-à-dire que les Britanniques qui ont cherché à tout étudier, à tout savoir, ont fait des recensements extraordinaires. Et le dernier recensement de grande ampleur, celui de 1931, listait absolument toutes les castes. Mais ça ne voulait pas dire qu'il était interdit par la loi à des gens de castes différentes de se marier. Simplement, c'était très mal vu. Voilà, donc je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une loi récente qui aurait permis quelque chose qui, en fait, n'était pas interdit. Là, je ne vois pas exactement à quoi vous faites allusion, mais bon, c'est sûr que les choses changent aujourd'hui, de toute façon.
Vous n'avez pas parlé de l'influence, par exemple, du mouvement communiste. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence ?
Ah si, il y a une influence, mais elle est localisée. Là encore, l'Inde est immense, et il se trouve que les mouvements communistes ont démarré au Bengale. Alors le Bengale en Inde, c'est une région pas comme les autres, puisque c'est la région qui a été la première à avoir été dominée par les Britanniques. C'est là qu'ils ont établi leur capitale. Calcutta était la capitale de l'Inde jusqu'en 1911, avant que la capitale soit relocalisée à Delhi. Et donc, dans les milieux bengalis, sont nés tous les mouvements intellectuels qui avaient quelques rapports avec l'extérieur. Et donc le mouvement communiste a commencé au Bengale dans les années 1900 et il a pris, disons, une forme officielle avec la création du Parti communiste dans les années 1927 ou 28, si je ne me trompe. Mais à l'origine, il s'agissait d'une poignée d'intellectuels bengalis qui d'ailleurs ont joué un rôle important au Congrès des peuples d'Orient à Bakou. Donc qui ont été fortement liés à l'international communiste. Ensuite, le mouvement s'est un petit peu diffusé chez les ouvriers de Calcutta ou de Bombay, mais à travers des syndicats, mais sans grand succès. Disons que le contraste avec la Chine est quand même assez remarquable, alors que les deux phénomènes sont contemporains. Donc le communisme est resté marginal, localisé au Bengale. Ensuite, il s'est un peu étendu dans certaines régions rurales, notamment au Kerala, au sud-ouest de l'Inde. Et alors, à partir des années de l'après-guerre et de l'indépendance, le mouvement communiste s'est en quelque sorte transformé. D'abord, il a éclaté, puisque est né un parti communiste non aligné sur Moscou. Ensuite est né un mouvement maoïste, toujours au Bengale, qu'on appelle le mouvement naxalite, et tout ceci a abouti à un renforcement de l'implantation communiste à Calcutta. Donc les communistes ont pris le pouvoir par la voie la plus légale qui soit, par la voie électorale, au Bengale occidental, à Calcutta, et administrent depuis une vingtaine d'années le Bengale, d'une façon d'ailleurs plutôt efficace. C'est une sorte de communisme municipal,
qui a fait que le Bengale occidental a pas mal, l'image du Bengale occidental s'est pas mal modifiée. Mais le communisme n'a jamais joué un rôle central dans la vie politique indienne. Est-ce que c'est parce que d'autres mouvements ont pris la place? Bon, il est sûr que le mouvement national indien est un mouvement qui a obtenu l'adhésion, d'autant plus l'adhésion de la bourgeoisie indienne, qu'il apparaissait comme une sorte d'un antidote, que bon, mieux valait Gandhi que Lénine, si vous voulez, aux yeux d'un certain nombre de membres de la bourgeoisie indienne. Mais je pense aussi que la société indienne se prêtait moins à l'implantation d'un mouvement communiste que la société chinoise ou nord-vietnamienne ou éventuellement russe. Mais ça, c'est une vaste question dont je ne suis absolument pas spécialiste. Mais c'est vrai que bon, le mouvement communiste indien existe et subsiste. D'aborigène, oui. Ah, ça c'est une expression effectivement commode, mais c'est vrai qu'en France on emploie plutôt cette expression à propos des aborigènes australiens. L'expression employée par les Britanniques était celle de tribu, tribes. Alors, qui sont les aborigènes de l'Inde? Eh bien, en fait, le mot désigne des groupes ethniques qui se différencient par leur organisation sociale et par leur mode de vie ou ce qu'était autrefois leur mode de vie matériel. L'organisation sociale, c'est celle de groupes qui ne sont pas organisés en castes. Les tribus ou les aborigènes, le mot indien c'est adivasi, les habitants du début, hein, ça veut dire les habitants du début. Le mot désigne des groupes sociaux qui ne sont pas divisés en castes, qui sont divisés en clans. Donc les pratiques de mariage sont tout à fait différentes. Hein. On a une pratique d'exogamie et pas d'endogamie, hein, pour prendre les termes savants employés par les ethnologues. Et puis sur le plan de la culture matérielle, la plupart des aborigènes pratiquaient soit une agriculture sur brûlis, une agriculture semi-nomade, soit des pratiques de chasse, de pêche et de cueillette. Et pour certains d'entre eux, menaient un genre de vie qui était assez analogue à celui des aborigènes de l'Amazonie, par exemple. Cette situation a beaucoup évolué au cours de la période de domination britannique, encore que les Anglais aient cherché souvent à maintenir les aborigènes dans leur statut d'aborigène, à créer des sortes de réserves et à interdire, par exemple, à certaines catégories d'Indiens d'aller dans les territoires aborigènes. En fait, les Anglais, ce qu'ils ont fait, c'est de permettre très souvent aux seuls missionnaires d'aller chez les aborigènes, et la conséquence c'est qu'en fait ce sont chez les aborigènes du nord-est de l'Inde qu'on trouve le plus fort pourcentage de chrétiens et de protestants. Il y a eu une conversion assez massive des aborigènes au protestantisme, à différentes dénominations protestantes, ce qui est une façon pour eux de se rapprocher du pouvoir, d'avoir l'appui du pouvoir. Bon, donc ces aborigènes, ils ont évolué au cours de la période britannique, ils sont aussi sortis de leurs réserves. Il se trouve que beaucoup de régions où habitent des aborigènes sont des régions où il y a des mines, donc ils ont très souvent, ils se sont transformés en ouvriers des mines et des industries lourdes. Et puis alors, durant la période qui s'ouvre avec l'indépendance, ils ont obtenu un certain nombre d'avantages. Ils ont bénéficié de cette discrimination positive, ce qui leur a permis d'avoir des députés à l'Assemblée. Alors le système est un système un peu compliqué. Il y a des circonscriptions qui sont des circonscriptions électorales où seuls peuvent se présenter des gens appartenant à la catégorie des aborigènes ou à la catégorie des intouchables. Donc ils ont désormais des députés. Ils ont également des places réservées dans la haute administration, à compétence égale, bien entendu, avec des non-aborigènes. Et ils ont longtemps été, en quelque sorte, des clients du pouvoir en place.
Mais depuis une vingtaine d'années, les aborigènes ont développé un sentiment fort d'identité qui les a amenés, par exemple, à réclamer des États pour eux dans le cadre fédéral de l'Union indienne. L'Inde est un pays fédéral dans lequel il y a un certain nombre d'États, grands et petits, et dans lesquels on continue à modifier les limites. Donc on a vu au cours des années 80 la création de deux États, le Chhattisgarh et le Jharkhand, qui sont des États où les aborigènes sont en majorité, ou en majorité relative au moins. Donc il y a une revendication, il y a un mouvement aborigène qui est fort, et ce mouvement s'est aussi organisé autour de revendications pour le territoire. Alors vous savez à quel point pour les populations aborigènes le fait d'avoir été privés de leur territoire de chasse, de leur territoire de parcours, a été quelque chose qui a été ressenti douloureusement. C'est vrai des Indiens d'Amérique, c'est vrai des Indiens d'Amazonie, c'est vrai des Indiens, des aborigènes indiens d'Inde. Et l'un des mouvements qui ont eu le plus de succès et qui ont vraiment amené les aborigènes à s'organiser a été le mouvement contre l'aménagement d'une des grandes rivières d'Inde centrale, qu'on appelle la Narmada, que, avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement indien voulait aménager en construisant une série de barrages, donc en inondant des vallées entières et en aménageant ces vallées. Donc c'est, si vous voulez, ce genre de grandes opérations comme celles qui ont été faites au Brésil, par exemple, et qui ont touché les Indiens d'Amazonie. Et là, les Indiens aborigènes d'Inde ont réagi en s'organisant et sont arrivés d'ailleurs à un certain nombre de résultats avec l'appui des milieux écologistes indiens qui sont extrêmement actifs et qui sont très proches du mouvement de revendication des aborigènes de l'Inde. Alors, dernier point, les aborigènes parlent quelquefois, mais pas tous, des langues qui sont des langues qui n'ont rien à voir ni avec les langues d'Inde du Nord, indo-aryennes, ni avec les langues d'Inde du Sud, dravidiennes. Il y a un troisième, quatrième ou cinquième groupe linguistique, il y a plusieurs petits groupes linguistiques qui sont des groupes linguistiques qui appartiennent à d'autres familles. Et donc parlent certains de ces 70 millions d'aborigènes de l'Inde.
Pour quelles raisons est-ce que les Britanniques voulaient protéger les aborigènes des influences autres? Pourquoi est-ce quelle était leur visée?
Ben, certains Britanniques l'ont fait, d'autres pas. Mais leur visée, c'était à partir de la fin du XIXe siècle, les Britanniques ont cherché à protéger les traditions. Il y a un mouvement favorable à la préservation des traditions chez les Britanniques qui est lié à cette prise de conscience qu'ont les milieux dirigeants britanniques, que ce sont les plus, entre guillemets, occidentalisés des Indiens qui risquent d'être les plus revendicatifs. Et donc maintenir les aborigènes sur place dans leurs réserves, maintenir une sorte de structure traditionnelle de chefferie, c'est aux yeux de certains admirateurs britanniques une façon de maintenir leur domination de l'Inde. Et en particulier, à un moment donné, en 1946, certains Britanniques ont voulu créer une sorte d'État indépendant aborigène, regroupant toutes les régions aborigènes de l'Inde, dans une logique qui était celle de ne pas créer une Inde unie. Mais à côté de cela, il y a aussi un mouvement, animé par des gens qui étaient très souvent liés aux missionnaires, et qui ont considéré qu'il était indispensable de préserver ces cultures qui risquaient d'être menacées par la domination, par l'occidentalisation, ou par la domination par les Indiens non aborigènes de cultures qui étaient des cultures fragiles. Il y a une prise de conscience à la fin du XIXe siècle que les cultures aborigènes sont fragiles, et il y a tout un effort qu'on retrouve d'ailleurs dans les colonies françaises d'Afrique, que l'on trouve dans beaucoup de pays du monde, de préserver ce patrimoine qui est fragile et donc menacé. de sorte qu'une fraction de l'administration britannique consciemment voulu préserver ces zones aborigènes de toute influence extérieure. On ne peut pas dire que l'administration britannique avait d'ailleurs une vision totalement homogène et cohérente de la façon d'administrer l'Inde. Il y a eu beaucoup de contradictions à l'intérieur du Raj, comme dans toute opération de domination. Les Britanniques, je ne sais pas si on peut parler des Britanniques en général, mais ce n'est pas les Indiens qui apparaissent comme population immigrée. Si vous allez en Grande-Bretagne, on vous parlera des Pakis et des Bangladeshis. Et en fait, il y a parmi les migrants qui sont arrivés en Grande-Bretagne depuis maintenant plus d'un siècle, un nombre proportionnellement élevé de gens venus du Punjab, aujourd'hui pakistanais, et donc de musulmans du Punjab, et un nombre important de musulmans venus de ce qui est aujourd'hui le Bangladesh. Donc l'image des Indiens est un petit peu brouillée, parce que, alors bien sûr il y a des Indiens venus d'Inde, mais proportionnellement, on peut dire qu'en Grande-Bretagne, ces Indiens venus d'Inde appartiennent plutôt à des catégories de la population qui ont réussi, qui sont dans les professions libérales, qui sont médecins, qui sont avocats, etc., qui sont hommes d'affaires. Bon, prenez Mittal, Mittal est l'exemple même. Bon, les Indiens, l'image des Indiens en Grande-Bretagne serait plutôt l'image de gens qui ont réussi et qui ont adopté la langue anglaise, qui sont devenus des Indiens cosmopolites, mais c'est une image qui n'est pas du tout négative. Par contre, l'image négative, elle est réservée aux Pakistanais et aux Bangladeshis, en fait. Pas facile d'expliquer ça. Parce qu'il faut remonter au début de ces mouvements d'émigration qui ont donc commencé au XIXe siècle. En fait, les premiers à avoir migré en grand nombre ne sont pas des Pakistanais ou des Bangladeshis, ce sont les Sikhs. Les premiers à avoir migré, ce sont des Sikhs, donc des adeptes qui sont Punjabis, qui sont originaires du Punjab, donc de la même région que les Pakistanais, entre guillemets. Mais les Sikhs, qui sont les adeptes d'une religion qui s'est constituée au fin 15e siècle et qui s'est constituée à partir de certains courants d'hindouisme, mais en réaction contre, et en même temps en réaction contre l'islam. Ce n'est pas un mélange d'islam et d'hindouisme, comme on dit quelquefois. C'est une religion à part entière, le sikhisme. Donc ces Sikhs, il se trouve qu'ils ont émigré parmi les premiers, tout simplement parce que les Anglais les avaient engagés de préférence dans leur armée. C'était la race martiale par excellence, entre guillemets. Et donc, les Sikhs ont parcouru le vaste monde, d'abord le monde colonial britannique, puis ensuite sont allés jusqu'en Amérique, jusqu'en Californie, sont allés un peu partout dans le monde. Ils n'ont jamais eu d'ailleurs d'inhibition à voyager, eux. Ce sont des gens qui ont toujours été particulièrement entreprenants. Donc, cette immigration Sikh est une immigration d'entrepreneurs, en quelque sorte. Par la suite, des musulmans indiens, originaires du Punjab, ont suivi le mouvement et se sont mis à émigrer, quelquefois pour les mêmes raisons, mais disons que c'est devenu une sorte de spécialité de certaines régions de l'actuel Punjab pakistanais que d'envoyer des membres de leur famille pour travailler quelquefois sur les bateaux. Comme soutier, enfin bon, toutes sortes de métiers physiques qui sont devenus une sorte de spécialité
à partir du début du XXe siècle. Ça a été la même chose du côté du Bangladesh. Il se trouve que ce sont des gens originaires d'une petite région, qui est la région de Sylhet, qui se trouve au nord du Bangladesh, qui est très loin de la mer et qui ont été employés systématiquement dans les bateaux en provenance de Calcutta et sur les lignes de navigation britannique. Et donc ces migrants, assez souvent, ont décidé de s'arrêter dans telle ou telle escale et ont constitué le point de départ de ces diasporas. Bon, alors il y a un autre phénomène diasporique qui est lié au fait que les Britanniques engageaient des coolies, c'est-à-dire des travailleurs manuels sous contrat, soit à Calcutta, soit à Madras, pour les emmener travailler dans les plantations anciennement esclavagistes à l'île Maurice ou dans les Antilles. Donc là, on a une autre vague de migrants, mais qui n'est pas spécifiquement musulmane. Alors, il se trouve que, en Grande-Bretagne, ceux qui n'ont pas réussi, enfin, la majorité de ceux qui n'ont pas réussi socialement, appartiennent à ces catégories de populations qui n'avaient pas de compétences particulières, de compétences professionnelles particulières, et qui sont arrivés pour travailler comme travailleurs manuels en Grande-Bretagne. Donc, je dirais que c'est un phénomène qui est lié probablement au fait que ces bassins de main-d'œuvre d'origine indienne qui ont été utilisés par les Britanniques, disons, dans les années à partir du début du XXe siècle, correspondaient à des zones où on n'avait pas une compétence particulière, si ce n'est sa force physique. Alors que les Hindous qui ont migré étaient généralement des gens qui avaient déjà une compétence qui avait la maîtrise de la langue anglaise, qui s'avait apprise en Inde et qui avait une compétence particulière. Donc je pense que si on essaye de faire une comparaison avec le phénomène de l'immigration maghrébine en France, on peut voir ce point commun qui est le fait que les pays occidentaux ont utilisé une main-d'œuvre, ont fait venir, ont utilisé une main-d'œuvre non qualifiée pour des travaux de force, le bâtiment, etc. Spécialement en France après la guerre, parce qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre, mais disons que c'est un phénomène qui est un petit peu, qui n'est pas du tout lié à l'islam ou je ne sais pas quoi, qui est lié à au type de formation ou à l'absence de formation de certaines catégories de la population qu'on utilise pour travailler, pour faire des travaux manuels.
Cette fois-ci, nous avons passé midi.
Alors,
il va falloir conclure. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Meyer. C'était un grand plaisir. J'en profite encore. Je vois que Monsieur Meyer, dans sa grande modestie, n'a pas pensé à citer son propre ouvrage, Une histoire de l'Inde, paru l'année dernière, l'année dernière maintenant, oui. Donc, chez Albin Michel, un vrai bonheur pour tous ceux qui ignorent tout comme moi. Je l'ai lu, j'ai tout compris. C'est pour ça qu'il m'en restait quelques bribes, en fait, au début de la conférence. Et la deuxième chose que je voulais donc vous rappeler, c'est qu'on se retrouve, pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, le lundi 3 mars, au même endroit, à 10h, sur la société iranienne contemporaine, donc avec une enseignante de la Fondation nationale des sciences politiques, Madame Farida Abdelhak. Je vous remercie tous de votre présence. Et à bientôt. Merci.